song for Linda, Mustafa, Jean-Pierre, Fatima, Michel.
Arnaud et plus de 350 ans. Accent d'Europe, Catherine Roland.
Brexit et crise migratoire, voilà les deux sujets au menu du sommet européen qui s'ouvrait cet après-midi à Bruxelles. Deux dossiers explosifs qui mettent une fois de plus en lumière les profondes divisions entre les 28 États membres. Le Premier ministre britannique veut connaître l'étendue des concessions de ses partenaires en vue de maintenir son pays dans l'Union. Mais certaines de ses exigences provoquent une levée de boucliers, notamment de Paris. Autre sujet de dissension, l'accueil des migrants. Seule l'Allemande Angela Merkel demande une politique d'action commune. La mise à mal des fondements de l'Union est encore accélérée à l'Est. Plusieurs de ses membres remettent en cause l'état de droit. Après la Hongrie, c'est la Pologne qui est montrée du doigt. Élu il y a 4 mois à peine, le nouveau gouvernement très conservateur de Beata Szydło fait voter à marche forcée les lois qui brident les principaux contre-pouvoirs que sont les médias et la justice. Le Conseil national du barreau tire la sonnette d'alarme. Maja Szymanowska est allée à la rencontre de ces jeunes avocats très inquiets. Reportage.
Dans ce cabinet d'avocats du centre de Varsovie, les visages sont graves et les yeux cernés. Ces jeunes juristes passent des nuits blanches depuis que les conservateurs du droit et de la justice sont au pouvoir. Dominika Stępińska représente la Pologne auprès du Conseil du barreau européen et elle ne cache pas son inquiétude.
Je ne me rappelle pas dans l'histoire contemporaine de notre pays une situation où pratiquement à tout niveau, les juges, les avocats, les conseillers juridiques, que tous soient aussi mobilisés et aussi inquiets par cette situation.
Les avocats reprochent au nouveau gouvernement non pas qu'il mette en place des réformes, mais qu'il bafoue tous les fondements démocratiques. Tomasz Kapliński ne mâche pas ses mots.
Nous avons en effet affaire à une véritable révolution. Et du coup, nous, les avocats, devons agir pour que cette révolution ne se transforme pas en coup d'État.
Première instance attaquée par les conservateurs, le tribunal constitutionnel. Le parti Droit et Justice a remis en cause la nomination de 5 juges proposés par l'équipe sortante, la plateforme civique, un parti libéral. Il est vrai que la plateforme civique n'est pas irréprochable dans cette histoire. Voulant anticiper l'arrivée des conservateurs au pouvoir, elle a voulu nommer le plus grand nombre de juges elle-même. Le PiS a récusé le choix des libéraux. Le président conservateur Andrzej Duda a refusé de signer la nomination de ses juges. Résultat, le tribunal constitutionnel se trouve ainsi paralysé. Une paralysie qui arrange les affaires du PiS, comme l'explique Mikołaj Pietrzak, spécialiste du droit constitutionnel.
Le pouvoir en place se sentait limité par le tribunal constitutionnel. En le mettant sur la touche, les conservateurs peuvent désormais faire passer des lois qui, de manière évidente, ne sont pas en accord avec la Constitution, des lois dangereuses pour les citoyens.
Le parti qui dispose d'une large majorité dans les deux chambres du Parlement polonais fait ainsi passer des nouvelles lois à un rythme effréné. Plusieurs ont déjà été votées, comme la loi qui rend les procureurs dépendants de l'exécutif ou une loi qui renforce les pouvoirs de la police et permet la surveillance internet des citoyens sans vraiment de restrictions. Entre la proposition d'une loi et son vote, il se passe à peine 2 jours. Le Parlement délibère souvent jusqu'au petit matin et ces jeunes avocats passent beaucoup de nuits blanches pour contrer l'action du gouvernement en écrivant des tribunes sur les lois proposées, analysant leurs retombées juridiques, des armes précieuses pour l'opposition. Mikołaj Pietrzak.
La première fois que l'on a été confronté à la manière dont le PiS procédait, nous avons été totalement surpris. Mais nous avons compris très vite qu'il nous fallait anticiper. Il faut désormais construire un argumentaire pour montrer les retombées nocives des lois proposées en 10 heures. Un travail que nous faisions avant, 2 mois. Bien sûr que cela influe sur la qualité des lois votées. On ne peut pas écrire et voter une bonne loi en 30 heures, c'est impossible. En plus, comme maintenant, en faisant fi d'une quelconque consultation.
Après la paralysie du tribunal constitutionnel, la mise au pas du parquet et la loi sur la surveillance, les conservateurs ont de nouveaux projets non moins inquiétants.
Les hommes politiques du PiS annoncent déjà la constitution d'une chambre populaire qui serait au-dessus du tribunal de grande instance et qui rappelle les pages sombres de l'histoire du XXe siècle européen. Une justice populaire qui se placerait au-dessus de toute loi comme une sorte de super cour de cassation. Un autre projet est de mettre en place un mécanisme qui permettrait à l'exécutif de choisir le juge qui siège pour telle ou telle affaire.
Il suffirait alors pour les conservateurs d'avoir quelques juges favorables par région pour leur adresser les affaires qui leur tiendraient à cœur. Les jeunes avocats s'affairent pour démontrer les dérives du système proposé par Peace. Une action d'autant plus difficile que ces questions juridiques ne sont souvent pas comprises et n'intéressent pas le simple citoyen. Il y a peu, la majorité des Polonais ne connaissaient ni l'existence ni les attributions du tribunal constitutionnel. Dominika, Mikołaj et Tomasz ne se découragent pourtant pas. Ils vont jusqu'à descendre dans la rue pour manifester contre la politique du gouvernement et tentent de mobiliser les instances européennes, comme le Conseil du barreau européen, pour suivre de près les bouleversements judiciaires réalisés par le PiS.
La crise migratoire évoquée donc au sommet européen de Bruxelles, alors qu'en Bulgarie, on continue de construire une clôture à la frontière turque. Et pourtant, la capitale Sofia accueille désormais les tout premiers réfugiés relocalisés. Rappelons que les quotas migratoires avaient été déterminés en septembre dernier déjà. Alors en ligne, Damien Vodnicharov. Bonjour Damien.
Bonjour.
Présentez-nous ces migrants relocalisés. D'où viennent-ils ?
Il s'agit de deux personnes venues de Grèce, mais on ne sait quasiment rien de leur parcours personnel. Aucun détail n'a été communiqué par les autorités, si ce n'est qu'elles ne représentent aucun danger pour la sécurité nationale. En tout cas, les deux réfugiés devront maintenant faire une demande d'asile en Bulgarie, ce qui peut prendre plusieurs mois. Ce sont également les deux premiers demandeurs d'asile à être relocalisés en Bulgarie, qui a un quota exact de 1302 personnes. Le gouvernement se dit d'ailleurs prêt à les accueillir tout de suite.
Alors, sur le long terme, la Bulgarie est-elle prête ? On se souvient que les centres d'accueil étaient pleins à craquer lors de la première vague migratoire.
C'était le cas, oui, mais depuis plusieurs mois, la situation a beaucoup changé. Les camps de réfugiés sont quasiment vide maintenant, au point que certains ont pu être réservés pour la relocalisation. Les chiffres confirment cette tendance. Les deux demandeurs d'asile ont été installés dans le plus grand centre d'accueil du pays, celui d'Armanli dans le sud, qui a une capacité de 3000 personnes. Mais en ce moment, il n'y a que 140 personnes qui y résident.
C'est effectivement très peu, Damien. Quelle est l'explication ?
Eh bien, depuis le début de l'afflux migratoire, la Bulgarie n'a été qu'un point de passage, une terre de transit pour les réfugiés. La plupart d'entre eux veulent se rendre en Allemagne ou rejoindre des proches à l'ouest. Rappelons aussi que les mesures de sécurité à la frontière avec la Turquie sont très musclées. Il y a une barrière de 130 km qui encercle les points de passage principaux, des caméras qui surveillent le territoire, des patrouilles de la police qui passent en permanence dans les villages limitrophes. Et le gouvernement a récemment déployé des renforts de l'armée.
Le mur à la frontière devait être également rallongé.
Oui, les travaux sont d'ailleurs en cours. Une nouvelle tranche d'environ 16 millions d'euros a d'ailleurs été versée à la fin du mois de janvier pour terminer la construction du mur. Sa longueur devrait doubler pour parcourir les 260 km de frontière terrestre avec la Turquie. La position du gouvernement bulgare est claire. Il faut fermer les frontières extérieures de l'Union européenne pour, selon ses dires, rediriger les migrants vers les postes frontières. Sofia n'exclut pas la possibilité de faire appel aux forces de l'OTAN à la frontière avec la Turquie. Et en même temps, le Premier ministre Boyko Borisov s'est opposé à un contrôle renforcé de la frontière avec la Grèce lors de la réunion du groupe de Visegrad en début de semaine. Finalement, il a appelé à l'unité européenne face à la crise migratoire, une position qui cherche un peu le juste milieu entre les pays d'Europe centrale et l'Allemagne.
Damien Vodnicharov, notre correspondant en Bulgarie, qu'on retrouve bientôt dans Accent. You have a Twitter alert. Et nous partons en Irlande à 8 jours des élections législatives. Si les conservateurs au pouvoir sont en tête des sondages, le Sinn Féin apparaît comme la première force d'opposition. Et pour gagner encore quelques points, le président de l'ancienne vitrine politique de l'IRA vient de publier un livre compilant ses meilleurs tweets et selfies. Très actif sur Twitter, Thierry Adams aime publier des photos humoristiques. Beaucoup y voient plutôt une stratégie de dédiabolisation d'un personnage très associé au conflit nord-irlandais. Sébastien Duval.
Les yeux cachés derrière de fines lunettes rondes au vert teinté, Jerry Adams prend la pose en bord de mer avec à ses côtés une chèvre, la tête posée sur son épaule. Voilà la couverture un peu bizarre d'un livre qu'il est tout autant, My Little Book of Tweets, disponible depuis le mois dernier pour 8,99€ sur le site internet du Sinn Féin. À 67 ans, le président du parti nationaliste est particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Il compte plus de 100 000 abonnés sur Twitter, qu'il gratifie de publications très variées, parfois rédigées en langage SMS. Il aime ainsi partager les nouvelles pièces de sa large collection de canards en plastique, son amour pour l'ogre Shrek ou les ours en peluche. Il raconte faire du trampoline entièrement nu dans son jardin et s'amuse de sa ressemblance avec l'acteur Pierce Brosnan. Jerry Adams mélange à tout va ses anecdotes personnelles avec des messages plus politiques sur la nécessaire unité de l'Irlande. Il affirme que la vie lui a appris à ne pas se prendre au sérieux, mais beaucoup voient dans cet étalage étrange une habile stratégie de dédiabolisation. Le Sinn Féin, qu'il dirige depuis 1983, est l'ancienne vitrine politique de l'armée républicaine irlandaise. Emprisonné pendant 3 ans dans les années 1970, Adams est soupçonné d'avoir appartenu à l'état-major de l'IRA, même s'il a toujours refusé de le reconnaître. Ses tweets et selfies le présentent sous un jour nouveau, plus léger, et permettent de détourner l'attention des questions de fond. La ficelle est un peu grosse et pourtant, cela semble fonctionner. Le Sinn Féin arrive à l'heure actuelle en deuxième position des intentions de vote en Irlande.
Et oui, vous l'entendez, hein, les manifestations troublées encore hier à Pristina, les célébrations officielles du 8e anniversaire de l'indépendance du Kosovo. Ambiance électrique, le petit pays le plus jeune du continent européen traverse en ce moment une crise politique la plus sérieuse depuis la fin de la guerre en 99. Une crise qui divise la majorité albanaise au-delà de la traditionnelle opposition communautaire avec les Serbes. Et c'est le reportage de Simon Rico.
Le dimanche 17 février 2008, le Premier ministre Hashim Thaçi proclamait à 15h l'indépendance du Kosovo. Bravant le froid, les Albanais descendaient dans les rues fêter ensemble ce moment historique attendu depuis si longtemps. Au même moment, des violences éclataient dans le nord à majorité serbe. 8 ans plus tard, les cocktails Molotov ont remplacé les klaxons dans la capitale Pristina. Depuis l'automne, l'opposition appelle la population à manifester, cette fois pour réclamer la démission du gouvernement qu'elle considère comme illégitime. Visar Imeri dirige Vedven Dossier, le parti qui a initié ce vaste mouvement populaire.
Je pense que les manifestations vont finir par pousser le gouvernement à démissionner. Ça permettra d'ouvrir la porte à de nouvelles élections. Il est important de noter que ce gouvernement va quitter ses fonctions parce que c'est le peuple du Kosovo qui le lui demande. La situation ici peut être comparée à ce qu'il s'est passé récemment en Roumanie. Là-bas, le gouvernement a dû démissionner à cause de la corruption et aussi parce que le peuple l'y a contraint.
À l'origine de la crise politique qui secoue le Kosovo, la plus sérieuse depuis la fin de la guerre et l'établissement du protectorat des Nations Unies au printemps 1999, la signature d'un accord avec la Serbie pour créer une association des communes à majorité serbe. Cela concerne la zone nord, où les Serbes sont les plus nombreux, mais aussi les enclaves réparties dans tout le pays. Pour l'opposition, cette association équivaudrait à une partition territoriale du Kosovo. Elle s'y oppose donc vigoureusement en manifestant dans la rue tandis que ses députés bloquent le travail du Parlement à coups de gaz lacrymogène. Mais pour le Premier ministre Issa Mustafa, pas question de céder à cette pression.
Nous allons proposer à l'opposition de participer à la mise en œuvre de l'accord conclu. Elle sera donc partie intégrante du processus. Mais l'opposition ne peut pas interdire au gouvernement de faire respecter la loi. Il y a bien sûr des problèmes, mais nous devons les dépasser pour respecter ce que nous avons signé.
D'ici la fin février, le Parlement kosovar doit en outre procéder à l'élection du prochain président. Le seul candidat à s'être déclaré, c'est Hashim Thaçi, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Celui qui reste le véritable homme fort du Kosovo espère échapper à la justice en accédant à la présidence. En effet, Hashim Thaçi pourrait être inculpé par le tribunal spécial qui doit juger à partir du printemps les crimes commis par l'UÇK, l'armée de libération albanaise, pendant la guerre de 1999. Dukagjin Gorani a longtemps été le conseiller diplomatique d'Hashim Thaçi.
Si M. Thaçi est inculpé, ses fonctions publiques pourraient pour le moment, sur une certaine période, empêcher la procédure judiciaire de se poursuivre.
Fin 2010, le député suisse Dick Marty présentait un rapport devant le Conseil de l'Europe. Il y pointait la responsabilité d'un groupe criminel à la tête de l'UÇK, dont faisait partie Hashim Thaçi. Pendant la guerre de 1999, ces hommes se seraient rendus coupables de multiples exactions contre des civils serbes, roms et albanais. Dick Marty évoque même un trafic d'organes pratiqué sur des prisonniers.
Il y a des indices nombreux et concordants qui démontrent qu'il y a des crimes qui ont été commis par des membres de l'UTCK et que ces crimes sont restés jusqu'à aujourd'hui impunis. Ça ne deviendra jamais un État crédible si on ne fait pas la lumière sur ce passé.
Aujourd'hui allié d'Hashim Saatchi, le Premier ministre Issa Mustafa considère ce tribunal comme un mal nécessaire pour que le Kosovo puisse regarder son passé en face.
C'est une décision très difficile que nous avons prise. Le jugement portera sur des gens qui ont défendu leur famille et le Kosovo. Mais si certaines personnes sont soupçonnées de ne pas avoir respecté la loi et les conventions internationales, nous soutiendrons le tribunal et nous lui donnerons la chance de tirer ses propres conclusions.
Cette question de l'ouverture prochaine du tribunal spécial tétanise la vie politique du Kosovo depuis des mois. Mais c'est loin d'être le seul problème. Dans le petit pays où tout est à construire, le chômage touche plus de la moitié de la population active et, selon la Banque mondiale, 8 Kosovars sur 10 doivent vivre avec moins de 5 dollars par jour. L'analyste Lumir Abdijiku est le directeur exécutif du think tank libéral Reinvest.
Ces 10 dernières années, le Kosovo a une croissance moyenne de 3,5% par an. Mais le pays aurait besoin au minimum d'un taux de 8 à 10% pour réduire le chômage qui touche notamment les jeunes et les femmes.
Youth and women.
Après 8 années d'indépendance sans que rien ne change, la population du Kosovo ne croit plus en ses dirigeants ni dans les nombreux représentants internationaux présents sur place, officiellement pour remettre le pays sur les rails. Pour beaucoup, le mouvement de gauche radicale Vetven Dossier apparaît aujourd'hui comme le dernier recours. Reste à savoir s'il aura vraiment les moyens de ne pas décevoir les attentes qu'il suscite.
Au grand mot, les grands remèdes, les drones ayant peu à peu envahi l'espace aérien, la police néerlandaise est en train de tester une brigade à plumes, et oui, c'est très sérieux, pour mettre un terme aux exactions de ces pirates des airs. Si les essais sont concluants, on pourrait bientôt apercevoir dans le ciel une flotte d'oiseaux de proie en train de chasser des drones. Johanna Holstein.
Un aigle est lâché, il vole tout droit en direction du drone. Arrivé à sa hauteur, il le saisit avec ses serres en quelques secondes à peine, avant de l'immobiliser un peu plus loin. Cette vidéo est tournée dans un hangar à La Haye, dans le nord des Pays-Bas. Depuis quelques mois, la société Guard from Above, en français la protection qui vient d'en haut, dresse les rapaces pour intercepter des drones civils à la demande de la police. Surveillance de manifestations, prise de vue aérienne, ces engins volants sont de plus en plus présents dans le ciel et peuvent parfois être dangereux. Ils risquent par exemple de blesser une personne en cas de perte de contrôle de l'appareil. Pire, entre de mauvaises mains, ils pourraient transporter des agents explosifs ou autres gaz toxiques. Et le scénario d'une attaque terroriste avec un drone est réel selon plusieurs rapports récents. Autre danger, les attaques contre les hommes politiques. Vous vous souvenez peut-être de ce drone, légèrement radioactif, qui s'est posé sur le toit de la résidence officielle du Premier ministre japonais, ou encore de celui qui a perturbé une réunion électorale de la chancelière Angela Merkel à Dresde en 2013. Les autorités néerlandaises réfléchissent donc à d'autres outils pour faire le ménage dans l'espace aérien à basse altitude que les fusils brouilleurs d'ondes, les canons laser ou les filets anti-drones. La société spécialisée dans l'entraînement des volatiles préfère rester discrète sur les techniques de dressage utilisées. Ce qu'elle précise en revanche, c'est qu'elle travaille actuellement pour que les aigles saisissent le drone par le bas pour éviter en fait qu'il ne se blesse avec les hélices. Reste aussi à garantir qu'en théâtre d'opération, le volatile se contentera d'attraper des drones et pas autre chose qui y ressemble.
Accent d'Europe, c'est déjà fini. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.